Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Manifestement, une émission qui veut apporter sa pierre à l'édifice en proposant un regard critique sur l'actualité. Notre point de départ, c'est des articles qui sont publiés sur le réseau d'informations militantes manif-est.info et l'idée est donc d'approfondir comme on peut des sujets qui nous intéressent. Dans cette émission, il y aura aussi trois autres brèves, un agenda, une actualité dans les prisons dans le Grand Est et des partages de lectures qu'il sera possible de vous faire envoyer par le biais de l'infokiosque du Molodeuil à Strasbourg. Alors je suis H, je ne suis pas un spécialiste des questions qu'on va traiter, c'est donc des recherches que j'ai faites de mon côté, des lectures, et donc c'est un point de vue modeste. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Flo.
Bonjour.
Bonjour Flo. Et aujourd'hui, on va parler du Linky. En fait, un article a été publié sur le site Manifeste, un article qui explique pourquoi certains et certaines refusent le compteur électrique Linky. Vous pouvez le trouver sur le site manif-s.info. Donc ce qu'on ne va pas faire dans cette émission, c'est parler des conséquences du Linky sur la santé et du moins pas beaucoup non plus du côté sécuritaire que peut apporter le Linky, mais plutôt essayer de proposer une analyse du rapport au monde que ce boîtier connecté dont on va parler nous propose, quel nouveau rapport au monde il nous propose. Donc on va parler du Linky. Des smarts hein, et de ce qui va avec. Alors pour commencer, le Linky c'est quoi? Déjà, il faut connaître le mot en anglais. Le Linky c'est en fait un smart meter qui veut dire un compteur intelligent. Un compteur intelligent parce que ce compteur est plus intelligent qu'avant puisqu'il communique des données. Et il mesure des flux. Et du coup, le Linky va en fait permettre, du moins c'est comme ça qu'il est vendu, va permettre en fait de suivre en temps réel une consommation énergétique d'un bâtiment, d'une maison, d'une entreprise, voire même finalement, au final, le Linky connecté d'une ville. Donc en fait, le Linky, il va transmettre des informations qu'il y a dans votre maison à l'extérieur de cette maison. Donc c'est ça le Linky. Donc le Linky va mettre en plus précisément, il va par exemple pouvoir capter qu'est-ce qui consomme dans votre maison. Par exemple, s'il y a un chauffage qui fonctionne plus qu'un autre, le Linky va vous permettre de savoir quel est le chauffage qui le fait par les capteurs qu'il y a dans ce compteur. Je ne sais pas si tu veux ajouter un truc à cet endroit.
Il faudrait quand même préciser justement comment ça fonctionne ça. Donc c'est quand même un truc avec une puce électronique et qui fonctionne sur des radiofréquences.
Une puce RFID, c'est ça, non?
Ouais. Mmh. Donc on peut. Parce que c'est quand même important de savoir comment ça fonctionne. Et c'est sans intervention humaine, du coup, c'est avec des capteurs, quoi, et puis des programmes qui sont mis en place et qui vont calculer et envoyer et transmettre toutes ces informations automatiquement. Donc sans qu'il y ait de commandes humaines derrière, ce sont après, sur les analyses de ces données, que potentiellement il va y avoir une intervention humaine, mais sur la base, c'est tout fait de manière automatique. Donc ça, faut quand même...
Et en fait, le Linky, on reviendra, je pense, sur ce qu'on vient de dire, mais pour remettre aussi le contexte, c'est que le Linky fait partie, en fait, c'est une espèce de première pierre dans le monde de ce qu'on appelle le smart grid. Donc, on disait que Linky, en anglais, c'est smart meter, le compteur intelligent. Et le smart grid, lui, c'est le réseau électrique intelligent. Et donc Linky s'inscrit dans cette logique de réseau électrique hein, intelligent. Et donc c'est là qu'on revient sur ces histoires de données, puisqu'en fait le Linky en fait va traiter des millions de données qui sont collectées chez vous dans les entreprises et partout. Et en fait, c'est à ce moment-là en fait, on se rend compte qu'il y a un potentiel économique derrière. Pour revenir sur le smart grid, donc c'est censé favoriser, comme c'est dit, l'information entre les fournisseurs d'énergie et les consommateurs d'énergie. Par le biais donc de ces compteurs communicants, je ne sais pas si non, on n'a pas parlé de compteurs communicants, en fait, que c'est aussi un des noms des smart meters et du Linky, c'est ce qu'on appelle un compteur communicant. Et en fait, ça permet aux fournisseurs de cartographier, si vous voulez, la consommation de chaque individu, chaque client, machin. Et en fait, c'est là que vient donc se rajouter une chose, donc la question économique et la question en fait du big data. Donc là, on va aussi revenir là-dessus. Le big data, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi, en quoi le Linky est comment dire, un opérateur, du moins ceux qui gèrent le Linky, donc ici en France, Enedis. Pourquoi ça devient un opérateur du big data. Alors, qu'est-ce que c'est le big data?
Alors, littéralement, ces termes signifient mégadonnées, grosses données ou encore données massives. Ils désignent un ensemble très volumineux de données qu'aucun outil classique de gestion de base de données ou de gestion de l'information ne peut vraiment travailler. Ce sont les informations qui proviennent de partout. Messages que nous envoyons, vidéos que nous publions, informations climatiques, signaux GPS, enregistrements transactionnels d'achat en ligne et bien d'autres encore. Ces données sont baptisées Big Data ou volume massif de données. Donc cependant, aucune définition précise ou universelle ne peut être donnée au Big Data, étant un objet complexe et polymorphe. Sa définition varie selon les communautés qui s'y intéressent en tant qu'usagers ou fournisseurs de services.
Bon, ben moi, j'aime bien la notion de grosses données, de big data, c'est les grosses données, mais on voit, on entend un peu là-dedans qu'en effet, ça peut aussi, le big data, être un big business, puisque, en fait, toutes ces informations que le big data, toutes ces micro-données que le big data va en fait récupérer, trier, et puis en fait, par l'intermédiaire d'algorithmes et compagnie, en fait, ils vont pouvoir être vendus parce que toutes ces big data, c'est en fait des informations sur les clients. Petite parenthèse, on a vu en quoi les big data en fait existent, puisqu'en fait, on pourrait croire que le big data n'existe pas. Enfin, on nous vend un peu un monde de l'irréel, mais en fait, on a eu un exemple assez concret de qu'est-ce que peut que les big data existent, puisque un data center a brûlé à Strasbourg il y a quelques mois, et en fait, ça a privé plusieurs millions de personnes d'Internet, ça a fait des pertes de données. Enfin, donc là, on a pu voir sensiblement que ces données-là, elles existent, elles sont dans des bâtiments, elles sont quelque part, et surtout, elles utilisent de l'énergie, ce qui en fait va complètement à contrario, justement, de Linky, qui en fait, si on fait le lien entre Big Data, Data Center et Linky, en fait, Linky nous propose de faire des économies d'énergie, mais en fait, Linky récupère énormément de données qui avant n'étaient pas récupérées avec les anciens compteurs et qui maintenant, et en fait toutes ces données, elles doivent être traitées et elles sont traitées dans des data centers et en fait ces data centers ont besoin d'énergie. Voilà, je ferme la parenthèse Et je reviens sur le Big Data et sur Enedis et sur le Linky. Parce qu'en fait, ce qui nous est vendu quand on installe les comptes, enfin, quand on installe, donc ce n'est pas nous qui installons les compteurs Linky. Vous aurez sûrement remarqué que les compteurs Linky sont souvent installés à sans notre autorisation. En fait, ils font ce qu'ils veulent, ils l'installent, vu que souvent c'est à l'extérieur, Enedis l'installe tout seul, quoi. Et en fait, Enedis déjà en 2016 déclarait qu'en fait il se trouve que maintenant ils deviennent un opérateur de big data. C'est-à-dire que Linky prenant en fait traitant récupérant les données de chez vous, et ben Enedis va pouvoir monnayer ces informations, ces données à d'autres endroits. Donc c'est un exemple un peu hasardeux, mais je suppose que par exemple ça peut fonctionner. Par exemple, le Linky remarque que vous n'utilisez pas souvent votre four, jamais votre four. Donc peut-être qu'il va s'imaginer que en fait, mais que vous êtes là, bah, peut-être qu'il va s'imaginer que vous mangez plutôt des pizzas, et donc vendre par exemple vos données à Pizza Hut. Parce qu'ils vont faire de la, comment ils appellent ça, de la stratégie de publicité, quoi. Donc c'est une utilisation, par exemple, de Linky, quoi, et des big data en termes économiques. Voilà pour ce qui est des big data.
Ben, on peut parler du coup là justement des grandes lignes, des pour et des contre par rapport.
Ouais.
À ces compteurs, donc il y a une liste, on va dire générale, des pour et des contre. Donc les pour, c'est que grâce à ces compteurs, du fait de l'analyse des données, de l'utilisation de l'énergie, donc ça permettrait des factures qui sont plus sensibles par rapport à votre utilisation, parce que ça traque l'utilisation de l'énergie concrète. Alors il y a aussi un truc par rapport au business, donc il y a comme l'énergie repose sur des marchés aussi généraux, il y a des en niveau de l'utilisation on va dire local ou national ou quoi, il y a des tarifs qui sont variables en fonction des fournisseurs d'énergie, donc en fonction des tarifs variables et de votre utilisation, ça pourrait faire des factures qui sont plus sensées. Et d'une manière générale, vu que ça analyse toutes ces données-là, s'il y a des gros blackouts, en fait, ils pourraient être résolus plus facilement du fait de l'analyse de ces transmissions de données et d'énergie.
Les blackouts, c'est quoi exactement ?
Donc, blackout, c'est quand il y a des coupures énormes d'électricité, quoi, comme ce qui a pu arriver en février au Texas avec les problématiques météorologiques. Du fait de ces choses-là, donc les contres, c'est que, effectivement, vu que les flux énergétiques changent, vu que l'usage de l'énergie change, donc les paiements peuvent changer du jour au lendemain, vu qu'il y a aussi la variation des tarifs. Donc vous pouvez en trouver d'un jour à l'autre avec une facture trois fois plus énorme que la veille, quoi. Ensuite, ce que disait Ash juste avant, c'est que du data qui il y a des flux de data constants qui peuvent être réutilisés donc du coup pour des publicités ciblées. Vous avez les données qui sont récupérées par des gens, vous n'avez pas forcément accepté les données. Par rapport aux fluctuations d'énergie, donc vous n'avez pas forcément vous-même de contrôle sur les tarifs qui sont appliqués vous pouvez avoir des ratios tout d'un coup plus énormes en fonction de l'utilisation qui est faite dans votre quartier, dans votre ville, dans votre bâtiment, où d'un coup ce sera plus cher ou moins cher. Et puis bon, le fait que tout ça, ça repose sur les ondes radio, les ondes mobiles. Et là, il y a les problématiques de santé, et puis il y a les problématiques de tous ces flux en général. Donc on a dit qu'on se basait pas forcément, qu'on n'allait pas forcément parler des trucs santé. Mais ça reste un énorme problème. Donc il y a une perte de contrôle sur comment et avec quoi, sur comment on utilise notre énergie, quoi.
Oui, c'est il y a, enfin, c'est dit d'une manière différente, mais c'est vrai que en fait, Linky, il y a une espèce de dépossession. Je répète un peu, mais dans d'autres termes, il y a une espèce de dépossession et à la fois aussi en termes de par exemple le fait qu'il n'y a plus besoin. En fait, tout est à distance. Donc, par exemple, une coupure d'électricité aujourd'hui avec le Linky. En fait, il n'y a plus besoin d'un agent EDF qui toque à votre porte, avec qui peut-être vous pouvez discuter, puisque tout peut se faire d'un ordinateur, enfin de l'extérieur. Et aussi, une chose qui me paraît fondamentale, c'est qu'en fait, avec le Linky, il est beaucoup plus compliqué de frauder. Du moins, vous pouvez trouver des tutos sur le net, pour frauder les Linky, mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus technique que ce qui existe aujourd'hui, quoi. Et
parce que ça passe par des programmes aussi, c'est du hacking, quoi.
C'est du hacking, ouais. Il faut internet, quoi, non?
Pas forcément internet, mais il faut un peu se pencher sur la question de ces programmes qui permettent de se connecter à, du coup, à ces trucs-là pour pouvoir les tourner, quoi. Donc il faut quand même avoir une espèce de connaissance ou d'ouverture d'esprit à ces choses-là, même si on s'y connaît pas, mais d'intelligence par rapport à ça. Donc si vous êtes quelqu'un qui est plutôt manuel mais pas forcément très ordinateur, ça peut être plus compliqué, quoi.
Oui, ça complexifie la chose, quoi. Et oui, sur le côté pour, du moins des industriels, ça paraît clair qu'il y a la question économique est vraiment mise en avant de manière très forte. Et aussi, ça, on en parlera dans la deuxième partie aussi sur la question de l'énergie et de l'industrie nucléaire, en fait, où en fait. En fait, il y a la problématique que la production d'énergie, elle n'est pas tout le temps la même, et que en fait, le Linky va permettre une gestion de la vente et de l'achat de l'énergie de manière beaucoup plus facile pour les opérateurs, quoi. Mais justement. Avant de partir dans ces sujets-là, je voulais proposer une espèce de mini historique, on va dire, c'est un grand mot, mais de la connexion, de l'interconnexion des réseaux électriques, et de voilà, enfin c'est un bref, quoi. En fait, l'interconnexion des réseaux électriques, il est arrivé plutôt assez tard, enfin au début du XXe siècle, entre autres grâce à la très haute tension et à la haute tension qui permet de transporter l'électricité, quoi. Mais c'est intéressant de voir que cette électricité, elle cache quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte que cette électricité vient de quelque part. Et bien souvent, et systématiquement, elle est le produit de la Terre, que ça soit, pour l'exploitation, en fait, l'extraction et en fait l'énergie, l'électricité, y a un rapport dès la base d'extraction et de prédation de la Terre, quoi. Mais en fait, longtemps, les populations vivaient pas forcément raccordées, quoi. Enfin, il y avait une espèce d'autonomie, on va dire, à l'électricité. Et c'est finalement dans les années 30 que les zones rurales commencent à être vraiment connectées, avec d'ailleurs des refus assez catégoriques de la part de certains habitants et habitantes de refus en fait d'être connectés, raccordés au réseau électrique, entre autres pour des questions d'avoir l'impression d'être contrôlés justement par des grands groupes ou par la ville en fait. Il y a aussi un rapport entre la ville, la mégapole comme on pourrait dire, et la campagne où en fait quand même toutes ces histoires de smart là ça se construit, mais on ne verra pas que mais ça se construit plutôt en ville, mais on ne verra pas que, parce que on en reparlera. En tout cas il y a la guerre, l'électricité nucléaire qui arrive, mais aussi en fait les centrales nucléaires bien sûr, mais il y a aussi les barrages. Et en fait, un peu en France, en tout cas, c'est pour contrer les questions aussi de l'hydrocarbure et de montrer, d'avoir une espèce d'autonomie électrique. Mais c'est assez tard qu'en fait, c'est à partir des années 70 que tout électrique, prend vraiment
sa
place, ouais. Et là, aujourd'hui, on en est au plus du tout électrique, on en est tout connecté et enfin du coup donc de fait beaucoup plus d'électricité consommée, quoi. Et ce qui est intéressant, ce qui est un peu ce que je trouve intéressant, c'est cette histoire de décentralisation, parce que donc l'énergie ne peut pas être fabriquée à un seul endroit, c'est-à-dire comme on pourrait avoir comme la France a comme capitale Paris, il n'y a pas une capitale de l'énergie. En fait, l'énergie est de fait décentralisée depuis toujours, entre autres pour des raisons qui sont des raisons géologiques, géographiques, des questions aussi de temps, de météo. Par exemple, il y a des endroits où il va y avoir des champs de panneaux solaires, à d'autres endroits il va y avoir des champs d'éoliennes, à d'autres endroits il y aura des barrages hydroélectriques, et à d'autres endroits on aura des centrales nucléaires. Et en fait, on a une espèce de carte comme ça de l'énergie complètement décentralisée et qui en fait est recentralisée dans des transformateurs électriques par le biais de lignes THT. Et en fait, c'est là que tout ça s'interconnecte, quoi. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant en fait de voir que finalement il y a l'énergie est un peu l'ennemi du capital, dans le sens où le capital est plutôt à l'aise dans la maîtrise par le fait de la centralisation, de la maîtrise des choses. Là ça va complètement à contrario de l'énergie en lui-même dès sa création, et pourtant le capital a réussi à mettre en place un système qui puisse être valable pour lui, quoi. Pour ce plus ce faux historique. Peut-être on peut revenir à Linky et à parler de trucs plus précis, plus terre à terre. C'est en fait qui sont les acteurs de la distribution d'électricité, donc de Linky. En premier lieu, les acteurs de la distribution d'électricité, c'est les producteurs d'électricité. Donc les propriétaires des barrages hydroélectriques, les propriétaires d'éoliennes, de gaz, d'usines à gaz, d'usines à charbon et de centrales nucléaires. Donc en fait, le Linky va leur servir à eux. Il va servir aussi aux transporteurs d'énergie. En France, c'est le réseau de transport d'électricité, RTE. Et il faut savoir que RTE, par exemple, est lié à un réseau européen qui s'appelle le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, NCO. Et en fait, ils utilisent les compteurs communicants. Ils utilisent tout ce, comment on appelle ça, les smart grid ou smart grind pour les smart grid. Je disais les acteurs de réseaux de distribution d'électricité, les producteurs, les transporteurs, les gestionnaires Donc en France, c'est le monopole, donc c'est ERDF qui maintenant s'appelle Enedis. Et les fournisseurs, donc là, dans les fournisseurs, on a EDF, Engie, Direct Energie, plein de ces trucs, et aussi Enercop. Petite chose, c'est que le Linky n'est pas quelque chose qui a été forcément, dont les écologistes sont complètement contre. Enercop, par exemple, est plutôt favorable au Linky. Mais c'est pas pour rien, parce que Enercop reste une entreprise qui vend de l'énergie et qui en achète. Donc le smart meter, le compteur communicant, ça va lui permettre de mieux gérer ce genre de choses. Mais aussi au niveau des mairies, enfin, il y a des maires écolos, enfin, il y a les positionnements, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts sur les compteurs communicants, elle est plutôt favorable, en fait. C'est pas tellement
Parce que
dans
ça
un refus.
permet un contrôle des flux énergétiques, d'où ils viennent et où ils vont, quoi.
Ben, il y a ça, et que ceci amène, enfin, d'après la rhétorique écolo et puis du gouvernement, enfin, et de Enedis, c'est ce que non, pas forcément le développement durable, mais en tout cas la réduction d'énergie. C'est en ça qu'ils trouvent que Linky est un projet écolo, quoi. Mais en fait, c'est quand même, ça paraît assez clair que c'est une espèce d'arbre qui cache la forêt, puisque comment on peut être pour le Linky qui va permettre de faire de la réduction de l'énergie en produisant, enfin en faisant une, en ayant une demande d'énergie, puisqu'il va falloir traiter ce qu'on disait tout à l'heure, des données, des grosses données qui vont aller dans des data centers qui vont utiliser de l'énergie. Donc en fait, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur pour comprendre qu'il y a un souci, que en fait, il n'y a rien d'écolo derrière le Linky, quoi. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, de Enercop à Europe Écologie Les Verts, il n'y a aucun problème pour eux, quoi. Et donc, je voulais revenir aussi. Bon, alors, je vais vous citer une petite liste aussi. Linky, il est donc, comme on disait tout à l'heure, installé plutôt bien souvent contre votre gré. En tout cas, vous n'avez pas votre mot à dire, hein, sur l'installation du Linky, ça c'est clair. Et par ailleurs, il est bien entendu pas installé par Enedis lui-même, Linky est installé par des sous-traitants. Donc, ce qui crée, bien sûr, comme dans toute, en général dans le monde de la sous-traitance, ce qui crée des tensions, de la précarité, enfin, tout ce qui s'ensuit. Donc, en France, il y a pas mal de groupes, dont Solution 30, hein, qui fait à peu près le tiers des installations. Donc, c'est probablement celui-là qui était près de chez vous, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ils sont. Enfin, je sais pas, ça sert à grand-chose de les nommer, puisque c'est des noms dont vous n'aurez jamais entendu parler. Petit détail, c'est vrai qu'il y a aussi dans les installateurs, des installateurs des boîtes qui sont pas françaises. Donc, enfin voilà, en fait, c'est Enedis, et vraiment, c'est la précarité, c'est la sous-traitance, et même à des entreprises, peut-être avec des gens qui sont en, comment on dit, bon, en tout cas, des contrats précaires. Et pour continuer à mettre le Linky dans un contexte, justement, j'aimerais bien qu'on parle non pas de la cafetière connectée, mais du smart grid, donc du réseau électrique intelligent. On en a parlé tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Je crois. Mais je voulais donner des exemples, en fait, locales, là, enfin, plus ou moins locales, de ce que ça peut impacter, en fait, ce que ça peut faire, enfin, des exemples, quoi. Dans l'Aube, en fait, donc c'est un département qui concentre énormément d'éoliennes, il y a un projet qui s'expérimente autour du smart grid. Pour, en fait, grâce au smart grid, ils vont en fait faire en sorte que les éoliennes, en fait, de pouvoir quantifier, de mieux gérer en fait l'énergie qui est récupérée par les éoliennes. Donc c'est de la. Pourquoi c'est de l'expérimentation? Parce qu'en fait là on parle d'un projet qui est énorme apparemment, qui en fait il vraiment c'est de l'expérimentation sur la captation, enfin pardon. Sur la commande des éoliennes, les informations, sur la planification surtout, comment planifier l'énergie, vers où elle doit aller, enfin, comment les raccorder, comment on peut stocker. Enfin, en fait, le smart grid va permettre devrait permettre, enfin, ils essaient de trouver des solutions, enfin, c'est pas des solutions, mais le smart grid va les aider en fait à gagner encore plus d'argent. C'est plus simple comme ça. Et donc là, vu que c'est une expérimentation à grande échelle, donc c'est à Vendeuvre-sur-Barse, pardon, j'ai oublié de dire, c'est dans l'Aube. Donc là en fait, Enedis est le coordinateur, mais après derrière, on a tout plein de grosses boîtes du type Schneider Electric, General Electric. Bien sûr, le réseau de transport électrique, RTE, la recherche et développement de EDF, et j'en passe d'autres boîtes inconnues, mais sûrement connues dans leur monde. Et donc voilà, ça c'est un des exemples du smart grid, de comment à niveau local. Mais aussi. Donc le réseau connecté, en fait, il y a plein de startups qui travaillent dessus. Et donc là, on s'éloigne un petit peu, mais pas tant. Je voulais quand même mentionner l'existence de TwoEye, une startup de Metz, hein, qui fait en fait de la. Donc là, on va pas aller dans les détails, mais qui fait en fait de la reconnaissance faciale grâce aux données qu'elle récupère. Donc ça, vous avez ça au stade de Metz, par exemple, et aussi qui fait de l'analyse d'émotions. Hein, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est pareil, c'est des données qui sont récupérées et communiquées et triées. Et du coup, voilà, il y a ça apparemment en test à Nancy et à Metz. Et à Strasbourg, ils ont un système de capteurs sonores. Qui est expérimenté avec le groupe SPI. Du coup, en fait, c'est couplé aux caméras pour détecter des situations dites contraires à la tranquillité publique. Donc, en fait, tout ça, c'est un peu le bout de. Enfin, c'est pas en lien direct avec le Linky, mais ça fait partie de tout ce réseau intelligent qu'on ne va pas forcément développer là tout de suite. Alors, je vais peut-être passer une petite chanson. Cette fois-ci, je vais même vous dire d'où vient le groupe. Donc, c'est un groupe parisien qui s'appelle Areva. Et la chanson, elle s'appelle, attention, s'appelle Nos petits RMI Insomnie. Et c'est parti.
Thank you.
Et voilà, donc pour la seconde partie de l'émission, on va vous proposer de voir aussi pourquoi en fait Linky, quelle est cette volonté en fait des capitalistes de vouloir toujours mesurer tout, tout cartographier, tout mesurer et tout cartographier, et en quoi en fait ça finalement ces compteurs dits intelligents, et ben en fait c'est plutôt des compteurs débilisants, dans le sens où en fait on nous dépossède d'un rapport aux choses et un rapport à l'autre. C'est peut-être parfois anecdotique, quoi, mais par exemple, typiquement la question de la fraude, moi je trouve que c'est typiquement un truc où en fait, qu'il y a une complication à la fraude, ben ça que c'est, ça change des choses, quoi. Mais aussi qu'il y ait que en fait que ça soit un algorithme qui décide de couper votre électricité et qu'il n'y ait plus de rapport avec un type qui va venir chez vous dire en fait là il faut que vous payiez parce que sinon je vais vous couper. Ben il y a aussi un rapport au jeu différent. C'est des exemples un peu
Bah, il
brutaux,
y a
mais.
de la déshumanisation, et puis quand on va plus loin, et effectivement, je veux dire, il y a quand même encore l'agent qui va venir couper le compteur. Je veux dire, il y a quand même des formes de protestation aussi là-dedans, où quand certains agents veulent justement ne pas couper le compteur ou remettre l'électricité à des gens qui sont précaires. Ça, ce sont des choses qui deviennent inaccessibles en fait. Donc il y a une totale déshumanisation et la politique du cas par cas, quoi, et de la protestation qui est complètement impossible dans le cas des compteurs connectés.
Et en général, en fait, j'ai l'impression que, comme dit, c'est la même chose pour ce qu'ils appellent les smart cities, quoi, parce que du coup, les smart meters, les smart grids, ça va dans ce truc-là des smart, du monde des smart, donc des villes intelligentes, et où en fait, toutes ces choses-là, en fait, en smart, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression que ça nous déconnecte aussi, à la fois ça nous dépossède, mais ça nous déconnecte aussi de qu'est-ce que c'est l'énergie, de comprendre en fait d'où ça vient, du coup de pas forcément capter que en fait il y a l'extraction par exemple, ça crée vraiment un monde virtuel, on va dire, quoi. Donc ça nous donne un rapport au monde qui est complètement différent, quoi. Alors, on peut peut-être donner un point au Linky, qu'en fait, le Linky, ça a été une espèce d'usine à militants, puisque, en fait, malgré tout, le Linky, il y a énormément d'opposants. Qui souvent s'associent plutôt au risque, qui sont des opposants plutôt par rapport aux ondes, par exemple. Mais pas que. Et puis par ailleurs, en fait, c'est une entrée dans la matière que de s'intéresser à la problématique des ondes, puisque après, en fait, on rentre aussi dans ces histoires de big data, de numérisation du monde, et de comment en fait le capital qui repartit de cette numérisation, quoi. Je pense que Linky, la critique de Linky, l'opposition à Linky, nous amène, enfin amène directement à une critique, à une opposition de la société électrique dans son ensemble, quoi. Bon, de toute façon, il y a assez de choses à dire, que ce soit par rapport à la fois la numérisation, mais aussi la privatisation de l'électricité, enfin le rapport qu'on a avec d'autres pays où on extrait les terres rares. C'est sûr que ça. Linky en fait amène à une critique de la société électrique et à la prolifération de l'électronique dans ce monde. Et c'est vrai que en fait, c'est impressionnant de réaliser qu'en 10 ans, on est passé de téléphone simple, enfin le téléphone portable, déjà c'était étonnant 10 ans avant, à maintenant où en fait tout le monde a des smartphones et qu'il n'y a aucun refus généralisé de ça d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est cette espèce de truc de confort, de facilité, d'accès à Internet dans le monde entier. Et ben en fait les gens ils ont tous des tout le monde a enfin énormément de monde a un smartphone quoi
Et
et
donc, je lisais juste avant, justement, sur un truc, enfin, un article, pas forcément conséquent, il n'y a pas forcément d'avoir les références, mais que, du coup, à l'heure actuelle, les jeunes générations auraient plus de mal à se passer, de ce qui, enfin, de leurs applications, de smartphone que de, manger, faire l'amour, ou boire, enfin, donc, des
Fumer.
choses qui sont hyper essentiel quoi, enfin pas forcément, enfin qui sont très bah, humaines quoi, donc et qu'il y aurait même des cliniques spécialisées maintenant, donc anti-addiction, donc maintenant vous pouvez faire une cure de désintox
Du smartphone.
du smartphone, donc ça va sur bah oui sur ce sur cette idée de déshumanisation et
Ben voilà, après déshumanisation, et tu dis que c'est essentiel, mais du coup, tout ça, en fait, je le répète, ça se fait tout de même sans un refus général généralisé de tout le monde, en fait. Enfin, il y a quand même une acceptabilité qui est voilà, qui fait, enfin, qui est un
bah,
peu bizarre, mais.
ça rentre, on va dire, dans le truc un peu philosophique, donc sans rentrer dans les détails sur bah, tout ce qui est machine, intelligence artificielle, c'est que bah, il y a toujours le problème de l'éthique, il y a le problème bah, de tous les avantages en fait que ces nouvelles technologies peuvent nous fournir. Donc là, par exemple, quand on revient sur Linky, sur le fait que effectivement ça peut nous amener à nous permettre de mieux contrôler d'où viennent les énergies et comment on les utilise, donc d'en utiliser moins. Mais en même temps, il y a tous les désavantages à côté. Donc ça, c'est le problème général de toute nouvelle technologie d'un point de vue éthique et philosophique. Où est-ce qu'on s'arrête, jusqu'où est-ce qu'on va et à quel point on utilise, et donc il y aura toujours où est-ce qu'on pose les limites en fait.
Ben après, le fait est que il y a des stratégies aussi d'acceptabilité de la part du capital, où en fait, ben, à un moment donné, oui, ça nous facilite la vie, mais parce qu'en fait, on ne nous facilite pas la vie. Enfin, pareil, pour prendre les téléphones, ben, en fait, il n'y a plus de cabine téléphonique. Donc à partir de là, c'est sûr que c'est plus simple d'avoir un téléphone portable. Enfin bon, il y a plein de petits détails comme ça, de disparition de certaines choses au profit de toutes ces choses smart qui font que ben
Je fais encore mon deuil des cabines téléphoniques.
voilà, c'était tellement bien. Mais voilà, après pour les. Pardon.
T'es
Donc
encore
là,
perdu.
ouais, je me suis encore perdu. Enfin, en fait, ouais, dans la critique de, enfin, Linky, en fait, c'est donc une technologie qui, je le répète, je le ferai peut-être, qui donc automatise tout, les interventions humaines, les jugements humains superflus, et surtout, Linky, en fait, c'est pas séparé d'un processus qui en fait, enfin, Linky fait partie d'un monde quoi, d'un système. En fait, les réseaux électriques, en fait, enfin, le réseau électrique type Linky, ça va de pair avec une espèce de perte donc d'autonomie, de savoir-faire. En fait, il y a ce truc un peu physique où on perd des choses quand ça devient, enfin en fait quand on n'a plus qu'à besoin d'appuyer sur un bouton ou de faire un clic, ou ben en fait on n'a plus l'impression qu'il y a des autres choses qui existent quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui. Bah, je veux dire, notamment, je te racontais la dernière fois une pub très drôle que j'avais vue pour des fabricants de serrures.
Oui, je l'ai regardé. Ouais.
Voilà,
Elle est
donc,
super.
où, bah, où ils montrent donc, un monsieur avec une villa complètement smart, donc qui n'a plus de serrure, soit qui passe par reconnaissance vocale ou reconnaissance faciale, et puis sa voisine qui a une serrure tout à fait normale, et puis il lui arrive à chaque fois des aventures où, parce que il a un rhume et que sa voix n'est pas reconnue, ou parce que il est déguisé et puis que sa maison le laisse pas rentrer, et puis il met en place plein de commandes complètement hilarantes, et puis à côté il y a sa voisine qui rentre normalement dans sa maison avec sa petite clé, et qui allume, qui appuie sur l'interrupteur, et puis tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est des pubs pour des serruriers qui ont très bien compris la problématique de ces smart houses, entre autres.
Et peut-être qu'on peut, je dirais, finir sur une note intéressante. Et du coup, peut-être que tu pourrais nous parler de cet exemple états-unien.
Donc, voilà, il y a un article que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle smart-energy.com, pour le faire à l'anglaise. Et c'est une expérience de cybersécurité aux États-Unis. Donc, ce sont des spécialistes qui sont engagés pour, donc des hackers qui sont engagés pour tester la cybersécurité, et qui du coup partaient de ces histoires d'électricité en Amérique du Nord et des compteurs intelligents. Donc c'est une simulation qui a été conduite par une équipe qui a conduit donc des simulations de cyberattaque à partir d'abord de un compteur, puis au fur et à mesure, comme dans toute cyber, tu braques une serrure, t'en ouvres une autre, t'en ouvres une autre, donc porte après porte, de réussir à accéder au plus grand système en fait qui gère tous ces compteurs intelligents. Donc ils ont démontré comment ils pouvaient, à partir d'un compteur intelligent, réussir à accéder au plus gros data center, et donc potentiellement prendre contrôle d'une centrale nucléaire, d'une centrale électrique ou d'un centre big data. Ça c'était une équipe donc, qui était engagée pour ça, pour faire des simulations. Pour trouver les failles en fait du système, et ils en ont trouvé plein. Voilà, donc je vous passerai les détails parce que c'est un très long article en anglais et que j'en ai pas fait la traduction, mais voilà, donc ça pose tout un tas de questions de nouveau sur on va pas rentrer sur les délires sécuritaires, terrorisme et compagnie, parce que c'est pas le but. Ça pose la question sur l'utilisation des données, le stockage des données, le flux des données. Et ça peut être arrivé, par exemple, pour les gens qui ont Facebook, ça arriver à plein de gens, par exemple, que tu te retrouves d'un coup avec ton compte Facebook qui commence à publier plein de pubs pornographiques et de trucs comme ça, et d'envoyer des messages bizarres à tous tes amis parce que tu t'es fait hacker ton compte Facebook, sachant que Facebook est pas très un truc sécurisé en général. Mais alors, si tu utilises Facebook, tu sais à quoi t'attendre. Mais par contre, si tu as un compteur intelligent qui gère ton électricité, qui gère des données à plus grande échelle, une centrale... une centrale électrique, par exemple nucléaire. Donc la question qui se pose, du coup, c'est dans le contrôle de ces flux de données, si des gens mal intentionnés peuvent accéder via toutes ces failles à des postes de contrôle en fait, je sais pas, d'une centrale électrique ou d'un centre big data, l'utilisation qu'ils peuvent en faire en fait, qui peuvent aller très loin.
Mal intentionné, mais bien intentionné aussi. On va pas la prendre aux saboteurs et saboteuses des 100, plus de 170 antennes qui ont été brûlées ces derniers temps en France. Mais en fait, le fait est que leur système électrique et des flux qui vont avec, ben ça fait que les infrastructures, elles sont partout, elles sont faibles et elles ne sont pas vraiment défendables. Puisque les infrastructures qui permettent la mise en place de ce monde du smart, ben c'est tout aussi bien des pylônes que des compteurs électriques, enfin des compteurs intelligents, que des antennes, que des transformateurs. Et qu'en fait, tout ça, c'est le petit défaut de leur système qui ne peuvent pas centraliser à cause de la fabrication de cette énergie. Et ben du coup la décentralisation permet en fait enfin, permet une faille quoi à cet endroit-là. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de. Enfin, non, on n'a pas fait le tour bien entendu, mais en tout cas on a dit ce qu'on avait envie de dire. Je sais pas, est-ce que tu as des trucs à rajouter?
Là, tout de suite, non, je pense qu'il y a beaucoup à penser, à réfléchir et à chercher.
Et ça n'a pas été une émission facile, mais
Plein de problèmes
plein de
techniques.
problèmes techniques. En tout cas,
Ça s'entend pas comme ça, mais ça fait une journée entière.
exactement. Donc on va faire une pause, hein, ça va faire du bien. C'est toujours le groupe Areva, et cette fois-ci, c'est une chanson qui s'appelle Ma ville, mon cimetière. puisqu'on va finir l'émission avec, comme d'habitude, les différentes brèves. Et pour commencer, on va vous proposer quelques propositions de lecture, en tout cas des ouvrages qui vous est possible de commander, on va dire, à l'adresse suivante, kiosque de Strasbourg, kiosque avec un K, kiosque de Strasbourg, @laposte.net. Voilà, il suffit d'envoyer un email et puis on peut s'arranger sur l'envoi, sur le prix et compagnie. Et donc là, j'ai trois publications à partager. La première publication, donc les deux premières publications concernent un peu notre sujet. La première publication est une publication d'une maison d'édition qui s'appelle Ouria. L'ouvrage s'appelle Voyage vers l'abîme, réflexion éparse sur le technomonde. C'est un petit livre qui est vraiment très intéressant sur où on en est de la technologie, de ce technomonde, comment ça nous transforme. Voilà, moi j'ai trouvé très intéressant, si ce n'est un petit détail. Donc dans le chapitre les alibis que je trouve un peu contradictoire dans ce débat où en fait justement on parle de points névralgiques que en fait l'alimentation électrique peut être sabotée mais que il y a les risques par exemple de mettre en danger des vies dans les hôpitaux ou les métros ou je sais pas. Et qu'en fait, donc il y a une phrase qui dit « Un révolutionnaire anti-autoritaire ne pourrait évidemment pas accepter que la révolution se fasse au prix d'innombrables vies humaines prises au hasard. » Et la phrase suivante « Pourtant, sans briser ses chaînes, la révolution n'est pas possible. » Voilà, je pense qu'il y a quand même encore débat à avoir là-dessus. Mais en tout cas, tout le reste du livre est vraiment intéressant. Donc « Voyage vers l'abîme, réflexion éparse sur le technomonde » aux éditions Ouria. Et le second livre, pareil, qui est un peu dans le même dans le sujet, c'est un livre aux éditions Tumult et qui se nomme malheureusement, car la traduction est moins bonne que la version anglaise. En français, c'est Les chaînes technologiques d'aujourd'hui et de demain. En anglais, Smarter Prisons. Voilà, les prisons intelligentes. Point d'interrogation. Et moi, je vous conseille la lecture du texte, précisément du texte Les chaînes technologiques d'aujourd'hui et de demain, parce que le livre est complémenté de plusieurs autres textes qui sont un peu moins intéressants, mais le texte Les chaînes technologiques d'aujourd'hui et demain, c'est vraiment une espèce de malheureusement 1984 bien écrit et enfin voilà, je vous le conseille. Et enfin la dernière chose, c'est une publication complètement autre, c'est la revue de lutte contre le Center Park de Roibon, le numéro spécial Abandon de projet, le dernier numéro, le numéro 13, qui revient sur la lutte, qui revient aussi de manière critique sur la lutte. Je pense entre autres à un article qui s'appelle Zadis the Question, mais aussi d'autres articles dans la revue. Voilà, c'est donc tous ces ouvrages sont disponibles au kiosque du Molodeuil à Strasbourg et il est possible de vous les faire parvenir en envoyant un petit mail à kiosque avec un K de Strasbourg @laposte.net et on s'arrangera. Voilà pour ce qui est des propositions, partage de lecture et on va passer au bref dans les prisons du contexte. Alors cette fois-ci dans le grand test on va surtout parler de Nancy puisque à Nancy il se passe pas mal de choses dans la prison après le drone qui est passé au-dessus de la prison de Nancy pour déposer un peu de drogue dans la prison. Cette fois-ci, c'est un individu qui a réussi à s'introduire à travers les filets du barbelé pour passer du shit dans la prison. Et puis quelques semaines après, il y a eu aussi un truc un peu plus tragique, puisqu'un détenu a essayé de mettre le feu à sa cellule, et voilà, il y a eu énormément de fumée. Voilà, j'ai pas tellement plus d'informations. Et voilà, comme je le disais la dernière fois, je vous conseille vivement d'écouter les émissions qui existent déjà sur la question. Carapatage ainsi que l'envolée. Et je voulais aussi vous parler d'un autre site qui s'appelle Prison Insider, qui est un peu un site d'information pour informer, comparer et témoigner de ce qui se passe dans les prisons à travers le monde. Voilà, c'est pour compléter cette petite brève. Et on va passer à l'agenda. Alors l'agenda, il y a quelques petites choses qui se passent ces prochains temps, surtout ce week-end, là, le week-end qui vient, je veux dire, donc le week-end du 22 et 23 mai. Tout d'abord du côté de Mulhouse, en fait, le collectif féministe du 68 organise des ateliers très régulièrement le dimanche après-midi et matin. Et donc là, ce sera dimanche 23 de 10h à midi, un atelier de théâtre des opprimés qui sera donné. Donc c'est inscription par mail au collectif féministe du 68@riseup.net. C'est un atelier en mixité et les enfants sont tout à fait les bienvenus. Le même jour, vous pourrez vous rendre à l'ouverture, à la permanence. De la bibliothèque Marsha P. Johnson à Strasbourg, à la Pigeonne, 25 rue des Pigeons, dans le quartier de Fronembourg. Et il y aura aussi un atelier fanzine en même temps que l'ouverture de la permanence. C'est donc dimanche 23 de 13h à 19h. Et, ah oui, pardon, et donc c'est en mixité choisie. 100 mecs, 6 mecs. Ensuite, tout le long du week-end, le 22 et le 23, à Nancy, il y a un marché noir, un black market à la MJC des Trois Maisons, un marché pirate d'artistes, d'artisans et d'artisanes, de producteurs et de productrices. Et voilà, vous trouverez plein de choses là-bas. C'est de 11h à 19h, le samedi 22 et dimanche 23, à la MJC des Trois Maisons. Et pour finir, je vous rappelle qu'il y a le procès le 1, 2, 3 juin, le procès des opposants à Cigéo à Bar-le-Duc, après 4 années d'instruction pour association de malfaiteurs. Ça y est, c'est l'heure de la mascarade judiciaire qui a sonné. 1er, 2 et 3 juin, tribunal de Bar-le-Duc. Les 7 malfaiteurs de la liste Abusure qui sont convoqués. Donc il y a plein de choses qui vont se passer. Plus d'informations sur durdurdur.info. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc on va vous remercier. Hein.
Merci.
Merci. Et ben peut-être au mois prochain. Merci Flo.
Merci H.
Et puis ben des gros bisous.
Bisous bisous.
Ciao ciao.
Bam, bam, bam.